Chers téléspectateurs, chers amis, peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant d'étoiles et de constellations dans le cosmos matériel et quelle en est la signification pour nous, êtres humains. Notre émission d'aujourd'hui répond à cette question, ainsi qu'à de nombreuses autres questions sur les grandes interactions cosmiques. Elle porte le titre « Le microcosme dans le macrocosme, la parole des astres adressée à l'homme, le microcosme et à son âme ». Il s'agit d'un texte rédigé par Gabrielle, la prophétesse et messagère de Dieu. Ce document accompagne le livre et la série d'émissions intitulées « L'unité universelle parle », la parole de l'esprit créateur universel, une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine. Chers amis, écoutons maintenant ce que Gabriel nous dit sur la parole des astres. Imaginons que nous sommes en train de nous promener sous un ciel étoilé.
Lorsque l'être humain porte son regard vers le firmament étoilé, il n'est pas rare de l'entendre s'exclamer avec émerveillement « Oh, toutes ces étoiles !» et ces innombrables voies lactées. Tant d'étoiles et tant de soleils. Oui, sans oublier la belle lune, bien sûr. Avons-nous conscience que le macrocosme matériel est, pour ainsi dire, la base d'enregistrement du petit monde personnel de l'homme? Autrement dit, qu'il existe en raison de tout ce que l'homme y a enregistré? Le macrocosme matériel ainsi que les domaines de matière plus subtils, appelés également cosmos, enregistrent l'essentiel des cinq composantes de la vie de l'homme, que sont ses sensations, sentiments, pensées, paroles et actes. En fonction des mouvements et interactions entre les différentes constellations planétaires, celles-ci renvoient à l'homme uniquement ce que lui, le microcosme, a enregistré dans le macrocosme.
La science est d'accord sur le fait qu'aucune énergie ne se perd. Ce que l'homme émet sous forme d'énergie, qu'elle soit positive ou négative, revient vers lui. Autrement dit, la résonance qui a lieu dans l'homme, ce qui le touche, est la parole que lui adressent les astres qui, comme nous l'avons dit, enregistrent les données de chaque être humain et les lui renvoient au fil des constellations planétaires. Bien que nous entendions régulièrement que chacun de nous est le microcosme dans le macrocosme et que nous sommes une partie intégrante du cosmos matériel, nombreux sont ceux qui n'en tiennent pas compte et se disent « Et alors, quelle importance ! Les Égyptiens de l'Antiquité eux-mêmes ont interprété les signes du zodiaque comme des figures animales. » D'un point de vue général, l'astrologie a un sens, car les données que nous enregistrons continuellement dans les astres parviennent à des points de culmination qui ramènent à chacun ce qu'il a enregistré.
En d'autres termes, la parole des astres se reflète dans l'homme, c'est-à-dire rayonne en retour vers lui et devient manifeste en lui, ceci en fonction de la constellation de planètes dans laquelle certains de ces aspects sont enregistrés. Pour comprendre ces interactions cosmiques, il nous faut partir du fait que tout, véritablement tout, est énergie et qu'aucune énergie ne se perd. Qu'il s'agisse de l'être humain ou de tout ce qui vit sur la Terre, les animaux, les plantes, les arbres, les buissons, les fleurs, les pierres, les sources, etc., tout repose sur de l'énergie et chaque aspect de conscience est en communication avec ce qui lui est similaire, car ce qui se ressemble s'assemble. Les animaux, les plantes, les arbres, les buissons, les fleurs et les minéraux ne portent pas de charge négative en eux. Leur conscience, qui est également vie, est en communication avec leur Créateur, l'un universel, l'Éternel. Malgré tout, les formes de vie matérielles des règnes de la nature sont enregistrées dans le monde des astres matériels. Quant à l'âme de l'homme, elle est d'une part en communication avec l'existence pure, le royaume de Dieu, et d'autre part avec ses propres charges, enregistrées dans le macrocosme matériel, ainsi que dans les domaines de matière plus subtile, ceci en fonction de l'importance de ces charges.
L'être humain est le seul être sur la Terre à pouvoir se charger jour après jour. Comme nous l'avons entendu, il se charge du contenu négatif de ses sensations, sentiments, pensées, paroles et actes. L'énergie émise par l'homme est enregistrée en premier lieu dans la mémoire de son cerveau, dans son conscient, ainsi que dans son subconscient, puis consignée dans les sources d'enregistrement du cosmos matériel et celles des domaines de matière plus subtiles. Par l'intermédiaire du cerveau, ses propres enregistrements imprègnent les cellules de son corps. C'est sur cette base que se forme l'homme, le microcosme dans le macrocosme. En conséquence de quoi, chaque être humain, y compris son âme, est répertorié des pieds à la tête, et cela à multiples reprises.
Il est écrit « Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. » Fin de citation. On peut reconnaître dans ces mots que l'homme est le microcosme dans le macrocosme et que le fluide de son âme trouve également un écho dans le cosmos universel ainsi que dans les domaines de matière plus subtile. Pas une once d'énergie ne se perd. Jour après jour, chaque être humain trace son propre chemin et forge son propre destin. Tout ce qu'il émet revient vers lui, en lui et dans son âme. Lorsque l'être humain meurt, son âme quitte sa maison, le microcosme. Le corps de matière plus subtile, le corps astral qu'est l'âme, reste ce qu'était l'être humain, car, comme nous l'avons entendu, rien ne se perd. En d'autres termes, tout ce que l'homme sème, il le transmet aussi à son âme.
Lorsque l'on prend en considération que même le plus petit des éléments de l'infini est énergie, on peut en conclure que tout repose sur le principe émettre et recevoir, parce que toute énergie, même sous la forme d'un grain de poussière, porte en elle le germe de la vie. La vie donne et reçoit. C'est pourquoi, dans l'infini, même le plus infime des volumes d'énergie trouve son destinataire. Dans tout l'infini, rien n'est statique. Tout, véritablement tout, est en mouvement. Tout émet et trouve le destinataire qui correspond à ce qu'il émet. La comptabilité universelle est illimitée. Le débit et le crédit de chacun d'entre nous, de toute âme, qu'elle soit incarnée ou pas, y sont méticuleusement consignés dans les moindres détails. Tous les aspects négatifs que l'homme n'a pas mis en ordre, également en ce qui concerne son passé, sont en communication avec le cosmos matériel, avec les constellations planétaires qui vibrent sur un même plan énergétique. Au-delà de cela, comme nous l'avons entendu auparavant, notre âme est également enregistrée dans les domaines de matière plus subtile.
Très très peu de personnes réfléchissent au fait que tout ce qu'elles émettent est énergie et reviendra un jour vers elles, car aucune énergie ne se perd et toute énergie, qu'elle soit positive ou négative, émet. Chacun reçoit ce qu'il émet. En conséquence, on peut dire que ce qui vient de l'être humain, jour après jour, sont ses propres enregistrements, c'est-à-dire ce qu'il a lui-même enregistré dans les astres. Les astres enregistrent le contenu de notre comportement et nous le renvoient au cours des situations et des événements les plus divers. Chacun reçoit donc ce qu'il a lui-même enregistré dans les astres. Autrement dit, chacun de nous est, à chaque instant, chaque minute et chaque seconde, en communication avec le macrocosme matériel et son âme avec les domaines de matière plus subtils qui, entre autres, lui montrent le chemin vers le prochain plan supérieur.
Comme nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises, la multitude d'astres de l'univers matériel s'est formée en raison de la pensée de la chute, celle de vouloir être plus grand que l'un universel appelé Dieu en Occident. La chute a pour racine le principe « divise, lie et domine », à l'opposé du principe divin de l'unité « uni et soi ». La densité que nous appelons matière s'est donc formée à cause du rejet et de l'éloignement de la loi de Dieu qui est amour, égalité et unité. Le macrocosme est fait de sortes de structures en forme de cascades, de vagues énergétiques pauvres en lumière, une sorte d'ondulation faite de masses énergétiques onduleuses et semblables, mais d'intensité lumineuse différente. Au cours de cycles d'une longueur inimaginable, elles se sont progressivement amoncelées et ce processus se poursuit aujourd'hui encore. Dans les conceptions humaines, ces masses énergétiques pauvres en lumière sont appelées le cosmos matériel. Le cosmos matériel n'est autre que les résidus des êtres de la chute. D'innombrables générations d'êtres humains, et ainsi leur âme, y ont pris part. Ce qui, si l'on se penche un peu plus sur le sujet, explique la réincarnation de nombreuses âmes. Le niveau le plus bas de l'ignorance humaine est l'égocentrisme des générations actuelles. Il est en même temps une déclaration de guerre à Dieu, car Dieu, l'Éternel, est l'amour qui donne universellement l'amour pour le prochain, la loi de l'unité et de l'égalité.
L'incommensurable royaume de Dieu et tout ce qui y vit et y agit est de matière subtile pure, substance primordiale. C'est la loi éternelle de l'amour de Dieu et du prochain. Ce sont les êtres divins du royaume de Dieu. C'est aussi la vie universelle de la création qui se trouve dans les minéraux, les plantes et les animaux spirituels, les êtres de la nature. C'est la force, la vie, l'amour du puissant esprit créateur universel. Dans tout l'infini agit la loi éternelle conceptrice et créatrice de l'un universel, l'abondance infinie, éternelle et intarissable de l'existence éternelle pure. Tous les cosmos, y compris le cosmos matériel, vivent au sein de l'intarissable loi de l'infini.
Auparavant, nous avons entendu parler de la chute des êtres qui se détournèrent de Dieu et dont l'aspiration, le but, était de dissoudre toutes les formes divines, y compris le royaume de Dieu. Au cours de ce processus, leur intensité lumineuse diminua de plus en plus, rendant leur corps toujours plus sombre et de matière de plus en plus dense. Au lieu de retourner dans le royaume éternel de Dieu, ils épuisaient leur potentiel de lumière, c'est-à-dire qu'ils l'utilisaient à mauvais escient. Bien qu'ils s'en rendaient compte, ils continuaient à lutter contre l'amour de Dieu et du prochain, contre la loi de l'unité universelle. Après chaque lutte contre la loi de Dieu, contre l'unité du royaume de Dieu éternel, ils remarquaient que des zones pauvres en lumière se constituaient, des énergies et des structures toujours plus grossières, plus denses, correspondant à leur propre existence pauvre en lumière et en énergie. Progressivement, du fait que la substance de leur corps devenait toujours plus dense, les êtres qui s'étaient détournés de Dieu reconnurent que leur volume d'énergie diminuait. Au fur et à mesure des cycles pendant lesquels la pensée de la chute se poursuivit, ces êtres constatèrent qu'ils avaient, pour ainsi dire, besoin d'une base pour pouvoir poursuivre leur combat contre l'amour universel, contre la loi de Dieu. En fonction du volume d'énergie de la chute dont ils disposaient, ils cherchèrent, dans les plans de matière en cours de densification déjà existants, une base à partir de laquelle ils pourraient continuer leur lutte contre l'unité universelle, contre le royaume de Dieu. Au fil des innombrables étapes de la chute qui s'est faite par poussée, se forma ainsi le cosmos matériel, une accumulation d'astres pauvres en lumière, à laquelle appartient également la Terre. Cette dernière fut choisie par les êtres de la chute comme base, plus précisément comme base de combat, et structurée en conséquence. Durant de nombreux cycles de densification au cours desquels un volume d'énergie spirituelle fut dégradé en ce que l'on peut qualifier de résidu cosmique et matériel de la chute, le cosmos matériel, se formèrent, suite à de nouvelles poussées énergétiques, des formes de matière grossière qui menèrent pour finir à la forme humaine.
La pensée de la chute est le principe inverse de l'égalité, de la liberté, de l'unité, de la fraternité et de la justice. Cette unité de cinq forces fut inversée et l'égalité a été transformée en inégalité, la liberté en manque de liberté qui s'exprime par « je prends la liberté de faire ceci ou cela ». L'unité est devenue « je suis moi-même mon prochain ». La fraternité s'est transformée en égoïsme et la justice en injustice et en volonté d'avoir toujours raison. Ces substances de combat négatives sont composées d'associations d'aspects par trop humains provenant des sentiments et sensations, des pensées, des paroles et des actes de chacun, tout en sachant que les substances de combat les plus dangereuses sont les pensées. Les pensées qui se forment à partir des sentiments et des sensations nourries au quotidien sont les précurseurs des actes correspondants. L'image provenant du contenu des sensations et des sentiments se cristallise dans les pensées. Cette image, qu'elle soit positive ou négative, portera un jour ou l'autre ses fruits, puisqu'elle est enregistrée dans les astres et que, selon des déroulements cosmiques, ses effets seront à un moment donné mis en mouvement à partir des astres.
En d'autres termes, ce que l'homme émet, il le reçoit. Les semailles et les récoltes sont indissociables jusqu'à ce que l'homme mette en ordre ce qu'il a semé. Afin de mieux comprendre les interactions énergétiques qui ont lieu dans le cosmos matériel, il nous faut prendre conscience que l'homme n'est autre que l'enveloppe d'un être, appelé âme, au plus profond duquel agit et réagit un être de matière subtile pure qui appartient au royaume de Dieu. Le noyau central de l'âme est incorruptible. L'homme ne peut donc charger son âme que jusqu'à la limite de cette force lumineuse essentielle qu'est le noyau central au plus profond de son âme. Lorsque l'enveloppe, le corps humain, meurt, l'âme quitte le corps. Son nouveau lieu de séjour peut alors se trouver dans le cosmos matériel ou dans les domaines de matière plus subtile. Cela dépend uniquement du niveau d'obscurcissement de l'âme, de l'intensité lumineuse de l'être humain qu'elle était dans son incarnation passée. L'enveloppe de l'âme, l'être humain, est donc le facteur décisif qui décide des charges qu'il s'impose à lui-même et à son âme.
La comptabilité cosmique est précise. Le débit et le crédit de l'homme et de son âme sont en communication constante avec l'univers et sont consignés dans l'univers. Le macrocosme matériel se meut en fonction du volume d'énergie totale émis et reçu par tous les êtres. Il en résulte des regroupements de planètes ayant enregistré des aspects identiques ou similaires. Ce sont des points de culmination de différents volumes d'énergie qui touchent entre autres des personnes qui auraient certaines choses à mettre en ordre ensemble et qui reçoivent pour cela des messages précurseurs. Le volume d'émission et de réception provenant de ces points de culmination énergétique cosmique est toujours fonction du débit et du crédit de l'homme et de son âme. Ce qui est inscrit au débit et au crédit est déterminant à chaque instant. C'est ce qui est décisif. Le passé que l'homme n'a pas mis en ordre détermine l'avenir de son âme. Ainsi, chacun forge son propre destin. Personne ne peut imposer son énergie à l'autre. Dans un juste retour des choses, ce que chacun émet reviendra vers lui.
Il est écrit que l'homme ne devrait pas se bercer d'illusions, car ce qu'il sème, il le récoltera. Le macrocosme matériel ainsi que les domaines de matière plus subtiles sont des cosmos d'enregistrement. Selon des lois d'airain, toute semence qui n'est pas mise en ordre lèvera un jour. L'homme devrait réfléchir beaucoup plus souvent à la comptabilité de Dieu, qui est empreinte de justice, et au fait que chacun ne reçoit que ce qu'il a lui-même semé, et non pas ce qu'un autre sème sur lui. Autrement dit, les pensées et paroles négatives que d'autres ont à notre égard, voire même leurs actes négatifs, sont uniquement la semence et la récolte de celui qui les a engendrées, sauf si nous y avons une part de responsabilité. Dans ce cas, nous engendrons nos propres causes qui produiront un jour leurs effets sur nous. Si nous sommes liés à l'autre à travers des causes communes, chacun sera touché par ce qu'il a lui-même semé, c'est-à-dire ce qu'il a pensé et dit, voire fait à l'autre.
Nous poursuivons la lecture de ce texte de Gabriel au contenu dense et extrêmement riche. Les effets sur l'homme, la récolte, sont très variables et dépendent toujours de ce que l'homme a enregistré. Lorsqu'un point de culmination rayonne, il touche ceux qui forment ensemble la racine d'un enchevêtrement de causes. Cependant, chacun reçoit uniquement la part qui lui revient. Nous devrions prendre plus souvent conscience au quotidien que la question n'est pas de savoir si ce que nous ressentons, pensons ou disons est correct, mais que tout dépend du contenu profond de ces composantes, autrement dit, de ce que nous y déposons. Rien de ce qui nous touche n'est dû au hasard. Seuls, revient vers nous ce que nous avons nous-mêmes enregistré dans les astres, dans le macrocosme. Comme nous l'avons entendu auparavant, les innombrables astres matériels, que nous les voyons ou pas, sont des mémoires, des lieux de stockage de données, tout comme le sont les domaines de matière plus subtiles, appelés également cosmos. Dans chacune de ces mémoires se trouvent l'éternel, Dieu, l'amour universel, la bonté et la miséricorde. Dieu, l'amour, ne punit pas. Il ne renvoie pas à l'homme, à travers l'immense océan des étoiles, les effets de ses causes, ses enregistrements, sans signe précurseur, sans mise en garde. Dieu est la mise en garde et l'aide dans la voie de notre conscience, dans la mesure où celle-ci est encore intacte, c'est-à-dire si elle n'est pas recouverte de forces liées à la terre.
Voici un exemple. Un point de culmination en cours de formation commence tout d'abord par avertir, par mettre en garde, tous ceux qui se trouvent dans son champ de rayonnement. Ces avertissements, ces mises en garde, se manifestent de multiples manières à travers les événements du quotidien. À travers le monde des astres, la force éternelle, l'amour de Dieu, avertit et met en garde en fonction des enregistrements de chacun et par l'intermédiaire de la voix de la conscience, lorsque celle-ci est intacte, et aide l'être humain à reconnaître ce qu'il a causé. Cela peut se faire à travers des indispositions, des désagréments plus ou moins importants dans le domaine professionnel ou dans la rue, en voiture, en faisant les achats, ou encore dans le cadre familial, entre conjoints, avec les enfants ou le reste de la famille. Ce sont toujours des indications, des avertissements et des mises en garde envoyées par l'amour, la bonté et la miséricorde, l'omniprésence de Dieu.
Dieu met en garde. Dieu avertit. Dieu aide. Malheureusement, la plupart de ces mises en garde sont prises pour des hasards ou sont ignorées, voire rejetées par des réflexions comme « c'est la faute de l'autre » ou bien « aujourd'hui, j'ai eu de la chance » ou encore « le diagnostic du médecin n'est pas préoccupant ». Une dose plus élevée de rayonnement venant du monde des astres, du point de culmination, peut déclencher un coup du sort, une maladie ou bien d'autres choses encore. Cependant, l'amour pour Dieu et pour le prochain est toujours la force qui aide et qui met en garde à temps. Les astres matériels peuvent également nous donner des indications sur notre chemin. C'est le cas si ce que nous émettons est en majeure partie positif, c'est-à-dire en accord avec les 10 commandements de Dieu donnés par Moïse, ainsi qu'avec les enseignements du sermon sur la montagne de Jésus. Sur cette base se développent les forces positives en nous, et nous recevons de l'aide en provenance de la loi omniprésente de l'amour, de la bonté et de la miséricorde de Dieu.
Chers amis, écoutons maintenant d'autres explications données par Gabriel sur le microcosme dans le macrocosme et sur la parole des astres adressée à l'homme et à son âme. Un pèlerin qui fait preuve de vigilance durant son cheminement sur terre a conscience que le hasard n'existe pas et que tout veut nous dire quelque chose. Il sait également qu'une puissance supérieure est à ses côtés et l'aide, grâce à la force du Christ, à se repentir et à mettre en ordre à temps les aspects négatifs qui menacent d'éclater et d'apporter leurs effets. Si dès lors, ils ne se tournent plus vers de tels aspects, ils sont, pour ainsi dire, effacés et transformés en positifs. Dans sa vie, chacun de nous reçoit de nombreuses mises en garde, l'appelant à mettre en ordre certains aspects, comme par exemple la jalousie, la rivalité, la discorde, la haine, la dévalorisation du prochain, des disputes de famille, mais également le mobbing au travail, etc.
En chacun se trouve la force de reconnaître et de mettre en ordre ce qui est mauvais, négatif, c'est-à-dire contre les lois de Dieu, avant qu'il en résulte des effets. Cela est possible à condition que nous soyons prêts à nous remettre en question, à nous analyser et à nous regarder dans le miroir, sans fard, pour découvrir les causes de notre comportement. Si nous avons trouvé la racine de notre semence dangereuse, il nous est alors beaucoup plus facile de changer notre manière de penser et de développer un caractère positif. Les paroles de Jésus qui suivent peuvent nous y aider. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Amen. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Certains se demanderont, pourquoi devrais-je mettre les choses en ordre avec mon prochain tant que je suis encore avec lui en chemin, c'est-à-dire ici-bas?
Réfléchissons à ce qui suit. Les sentiments, les sensations, les pensées et les actes sont comparables à des coquilles ou à des étuis. Chaque être humain y dépose ses propres conceptions que, bien souvent, en raison du rythme rapide de ses journées, il n'est pas à même de saisir dans tous leurs détails. Malgré cela, ses énergies, qu'il produit lui-même, sont enregistrés dans son âme et dans les astres. Les cinq composantes ont donc un contenu qui, lui seul, est déterminant car c'est lui qui, d'une part, imprègne notre corps physique, c'est-à-dire nos cellules et nos organes, et qui, d'autre part, est enregistré par le cosmos matériel et les cosmos de matière plus subtile. Comme nous l'avons déjà entendu, lorsque le corps physique, l'être humain, meurt, l'âme quitte son habitat, le corps, et suit dans le monde des astres le chemin qu'elle a elle-même tracé lorsqu'elle était incarnée.
L'être humain est donc, pour ainsi dire, l'appareil détecteur de son âme. Une âme suffisamment lumineuse suit le chemin de l'oubli dans des domaines plus élevés, de matière plus subtile. Une âme assombrie, c'est-à-dire pauvre en lumière, et qui est encore liée à la Terre, restera de ce fait éventuellement liée au cosmos matériel. C'est l'ensemble des programmes de l'être humain, dont le contenu sont les cinq composantes, qui est déterminant. Tout particulièrement en cette époque matérialiste, l'homme se livre sans réfléchir aux nombreux attraits de ce monde. En agissant ainsi, il se charge et charge son âme, qui, à la mort du corps physique, restera éventuellement liée à la terre, car son monde de désir matérialiste imprègne son corps physique comme son âme, qui tend alors à se réincarner pour continuer à vivre ses désirs et ses addictions. Nous devrions prendre plus souvent conscience que ce qui se ressemble s'attire et s'assemble.
Une autre éventualité s'offre à l'âme liée à la terre qui n'a pas la possibilité de s'incarner. Elle cherche des personnes qui ont des addictions et des désirs inassouvis similaires aux siens. Elle se glisse dans l'aura de ces personnes qui se trouvent dans le même état qu'elle pour, à travers elles, nourrir et vivre ses propres désirs. Cependant, malgré tous ces dangers, la Terre reste un lieu de grâce, car à travers les astres, Chaque être humain est mis en garde à temps par Dieu l'Éternel et reçoit ainsi la possibilité de se repentir, de mettre en ordre les aspects négatifs encore présents en lui et de ne plus recommencer ce qu'il a reconnu. De cette manière, l'être humain peut libérer son âme de nombreuses charges et de ses liens à la terre. Ainsi, chacun peut agir positivement pour lui-même et pour son âme, bien plus qu'on ne peut l'imaginer.
Si l'homme n'a pas mis à profit son incarnation, son âme, après la mort du corps physique, restera éventuellement accrochée à la terre, car les aspects négatifs qui ne sont pas mis en ordre composent l'avenir de l'homme et de son âme. Dans les plans de purification, sous l'effet de points de culmination des astres, l'âme doit expier, souvent de manière extrêmement douloureuse, ce dont l'être humain l'a chargé et qui agit en elle. Dans les plans de l'au-delà, il n'est effectivement pas aussi aisé pour l'âme de demander à mettre quelque chose en ordre que dans l'ici-bas, dans la matière. Les chemins empruntés par les âmes dans les différents cosmos sont très différents pour chacune d'elles. C'est pourquoi il n'est pas toujours si simple, dans l'au-delà, d'entrer en communication avec une autre âme se trouvant dans un autre domaine, voire avec un être humain concerné, pour mettre en ordre les charges négatives qui sont actives dans l'âme.
Combien de fois ne dit-on pas, en hâte et sans réfléchir, après avoir échappé à une situation dangereuse, ou bien après être sorti d'une maladie, je m'en sors à peu près bien. La plupart du temps, nous en restons là et continuons à nous comporter comme avant. Malheureusement, trop peu de personnes se demandent ce que veut leur dire ce qui s'est passé. Ce qui n'est pas mis en ordre reste consigné dans la mémoire que sont les astres. Il est possible que les astres aient en mémoire bien d'autres aspects de nous-mêmes encore. Mais rares sont ceux qui y réfléchissent. Celui qui est peu exigeant se contente de penser qu'il s'en est à peu près bien sorti. Ce faisant, il ne prend pas en compte les mises en garde qui lui sont parvenues sous l'effet d'un point de culmination et il ne met pas en ordre les causes de ces événements. Bien au contraire, il continue à penser, à parler et à agir comme auparavant. Autrement dit, il continue à enregistrer ses semailles négatives dans la mémoire des astres. Le moment venu, le point de culmination en question rayonnera à nouveau vers l'homme ce qui est enregistré en son sein et qui correspond à ce que l'homme et lui seul a enregistré. Car repousser ne veut pas dire régler. Ce que chacun a enregistré de négatif dans les astres ne peut être mis en ordre que par lui-même, car personne n'a accès au contenu des sensations, des sentiments, des paroles et des actes d'une tierce personne.
La vie sur Terre est une chance pour l'homme et son âme. Dans l'ici-bas, l'être humain peut consulter un médecin et faire soigner une indisposition ou une maladie. Il peut également aller devant un tribunal pour réclamer son droit et même pour le disputer. Rien de cela n'est possible dans l'au-delà. Après avoir quitté le corps, l'âme n'a pratiquement plus que la possibilité de mettre en ordre par l'expiation. Dans l'au-delà, il n'y a pas de médecin pouvant prescrire un médicament. Dans l'au-delà, il n'y a ni tribunal, ni juridiction. Les astres mémoires sont le tribunal de la justice. Ils mesurent et soupèsent et redonne à chacun sa part d'injustice. Dans tout l'infini de l'au-delà, il n'y a ni droit, ni juridiction, ni jugement unilatéral. La comptabilité de Dieu, les cosmos, constitue la balance avec laquelle tout est pesé avec la plus grande précision et donné en juste retour à chaque âme. C'est la raison pour laquelle une âme chargée a la vie beaucoup plus difficile dans l'au-delà que l'homme ne l'a ici-bas.
Celui qui fait preuve de discernement remarque que beaucoup de gens prennent du bon temps sur le dos des autres. Ils ne réfléchissent pas à la charge qu'ils font porter à leur prochain. Lorsqu'elle quitte le corps humain, l'âme de ce type de personne est énervée, déçue, agressive, parce qu'elle ne peut plus atteindre ce qui lui était possible lorsqu'elle était incarnée. Les âmes égoïstes, égocentriques, accrochées à ce monde, séjournent longtemps dans le cosmos matériel, car il leur manque l'aspiration à mûrir spirituellement. Nombre de ces âmes restent près de la terre et cherche à tout prix à se réincarner rapidement. Encore une fois, les charges que l'homme impose à son âme sont enregistrées dans le cosmos matériel et dans les astres de matière plus subtile. C'est la raison pour laquelle l'âme peut être mise devant deux possibilités, soit continuer son cheminement vers les astres de matière plus subtile, soit se réincarner, à condition qu'une opportunité se présente.
À plusieurs reprises, nous avons entendu parler des êtres de la chute qui se détournèrent de la loi universelle pour conquérir le royaume de Dieu, le faire chuter et ériger, selon leur conception, leur propre royaume. Au cours d'innombrables cycles de temps, en raison des mesures qu'ils prirent pour atteindre ce but, ces êtres divins s'assombrirent de plus en plus et tombèrent toujours plus bas. Ce faisant, ils s'enveloppèrent de leurs énergies négatives. Le corps humain se développa au cours de périodes de temps inimaginables pour l'homme. À partir du principe de l'assombrissement et de la densification, résulta l'incarnation dans un être humain et au cours de périodes incalculables, la réincarnation de l'âme, c'est-à-dire sa venue répétée dans un corps humain.
Chers amis, écoutons maintenant les explications de Gabriel réunies sous le titre « Tous ceux qui ne respectent pas la loi divine de l'amour pour Dieu et pour le prochain sont des guerriers qui combattent la loi de Dieu. » Que l'on observe l'humanité d'aujourd'hui ou celle des générations passées, on retrouve toujours le même comportement hostile et offensif de l'homme à l'égard de son prochain et de la nature. Crimes, guerres, famines et épidémies se succèdent de génération en génération. L'humanité actuelle croit être plus éclairée que celle des générations passées. Par le passé, beaucoup de choses étaient faites en secret. Elles étaient dissimulées et passées sous silence. Aujourd'hui, on fait les choses plus ouvertement, mais sans réfléchir au fait qu'en agissant ainsi, on combat, en fait, l'amour universel de Dieu. Les méthodes d'aujourd'hui sont très similaires à celles utilisées en secret par le passé. Pour beaucoup de personnes, le Moyen-Âge, par exemple, fait partie d'un passé lointain. Demandons-nous cependant si les méthodes actuelles ne sont pas similaires à celles de cette époque, à la différence qu'elles sont camouflées. Aujourd'hui, on les voile de grands mots, comme par exemple la défense d'un pays. Ou encore, on dissimule ceux qui souffrent de faim derrière un système de mendicité appelant le peuple à faire des dons. Que font les gouvernements des pays nantis? Ils mendient ouvertement auprès de leur peuple et lui demandent de passer à la caisse. Parallèlement, dans certains pays, l'État verse chaque année des milliards aux églises déjà archi-riches.
Autrement dit, ceux qui ont faim continuent à mourir de faim, mais plus humainement, entre guillemets. Aujourd'hui, les méthodes sont moins directes. Autrefois, on utilisait le cachot, la potence, le bûcher, sans oublier, bien sûr, la guerre, faite souvent sur ordre de l'Église, comme par exemple les croisades et leurs croisés, qui massacrèrent des peuples entiers au nom de Jésus le Christ. Aujourd'hui, tout est embelli, judicieusement enveloppé et présenté au peuple pour l'inciter à faire des dons aux nécessiteux et le convaincre du bien fondé de nouveaux impôts qui s'ajoutent encore et encore. De tout temps, l'Église a exigé de ses croyants qu'ils rampent devant la croix en devenant membres de l'Église et qu'ils apportent ainsi leur obole à la croix qui, dans ce cas, est la croix de l'Église.
In Wahrheit dem Kreuz der Kirche den entsprechenden Obolus zu leisten.
Rappelons-nous encore une fois que tout est énergie et qu'aucune énergie ne se perd, qu'elle soit positive, c'est-à-dire consciente de Dieu, ou bien seulement apparemment positive, mais en fait hypocrite. Pas un iota d'énergie ne se perd. Toute énergie que nous émettons revient un jour vers nous. Un jour ou l'autre, dans le monde des astres, un point de culmination est atteint. Et il nous renvoie exactement les aspects que nous avons nous-mêmes enregistrés. En résumé, toutes les énergies négatives qui ne sont pas encore mises en ordre, qui sont encore enregistrées dans les astres du cosmos matériel, devront être transformées, soit par l'être humain, soit après sa mort, par son âme, dans l'au-delà. Les cosmos ne sont pas liés au temps. Le rayonnement cosmique qui touche chacun correspond à ce qu'il a enregistré. Chacun détermine lui-même le moment et la manière dont ce rayonnement le touchera.
Chers amis, certains se demanderont probablement comment reconnaître ce qui est important et où trouver de l'aide. Voici la réponse. Dans la journée, dans notre journée, en nous-mêmes. Et en cela, nous recevons de l'aide du monde des astres. Lorsque, par exemple, une ou plusieurs personnes interpellent chez nous un comportement négatif, la plupart du temps, nous sommes indignés, outrés. Cette indignation échauffe notre système nerveux, ce qui se manifeste au niveau du système nerveux central. Cet énervement contient un message qu'il veut nous communiquer. Si, à ce moment, nous analysons ce qui se trouve derrière notre réaction, nous prenons conscience du contenu profond de nos cinq composantes. Qui sommes-nous ? Et où serons-nous lorsque notre âme quittera son habit, le corps, qui est son véhicule, ici-bas ? Tout, véritablement tout, veut nous dire quelque chose. Notre système nerveux est comparable à un appareil détecteur. Lorsque quelqu'un nous énerve et qu'éventuellement nous lui rendons la monnaie, notre appareil détecteur, c'est-à-dire notre système nerveux crispé, se manifeste de manière renforcée en nous. Il est en ébullition parce que nous ne saisissons pas qu'il a un message pour nous en provenance du monde des astres.
S'il y a tant de personnes sur Terre, c'est parce que beaucoup de personnes, en raison de leur apathie, laissent les autorités temporelles et religieuses décider pour elles de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Observons-nous nous-mêmes, ainsi que nos prochains, et nous remarquerons qu'une grande partie de la population se préoccupe de futilité. Nous observerons aussi qu'un groupement de personnes s'est détourné de Dieu, l'Éternel, et garde prisonniers les hommes et les âmes à l'aide de méthodes insidieuses et faussement spirituelles, doublées d'un réseau d'intrigues belliqueuses. Un autre filet tendu par l'Église est un dogme qui stipule en gros que la foi seule suffit, qu'il n'est pas nécessaire d'agir selon les lois divines. Les œuvres divines ne sont réalisables que si le contenu de nos sensations, sentiments, pensées et paroles sont en majeure partie en accord avec la loi universelle de l'amour de Dieu et du prochain. Toutes les autres conceptions bâties autour du mot « foi » font partie de l'enseignement de l'Église.
Je crois en Dieu, notre Père céleste, et au Christ, notre Rédempteur. Cette phrase, prononcée un peu partout, de par le monde, est comme un mirage. Si la foi seule suffisait, sans les œuvres de l'amour désintéressé pour Dieu et pour le prochain, il n'y aurait ni guerre, ni famine dans ce monde, les coups du sort seraient moins lourds, et la terre-mère, les animaux et la nature pourraient respirer. La foi, sans la mise en pratique progressive des 10 commandements de Dieu et des enseignements de Jésus de Nazareth dans son sermon sur la montagne, est un mirage, une foi morte. Il est confortable de suivre les enseignements des autorités religieuses sans avoir à réfléchir par soi-même, surtout lorsqu'il est dit que la foi seule suffit. Mais regardons les choses en face. Personne, pas non plus un responsable religieux, ne peut nous libérer de nos énergies négatives, même si nous croyons aux enseignements de l'Église et préférons fermer les yeux devant notre propre image ou devant la faim dans le monde, la torture et l'assassinat des animaux, la souffrance infligée à la nature par des hommes qui sont sous l'emprise de la destruction au profit de l'égoïsme, parce que la foi seule suffit et que l'on s'est cru plus intelligent que Dieu.
Une question que nous posons à nos auditeurs. D'où vient cette dépendance d'un grand nombre de personnes alors que Dieu, l'Éternel, a donné à chacun le libre arbitre et, de ce fait, la responsabilité de ce qu'il fait ou ne fait pas? Le libre arbitre est en Dieu et au plus profond de notre âme. Parce qu'au plus profond de notre âme, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Puisque Dieu, l'Éternel, selon la loi, c'est-à-dire selon la loi de l'ordre divin, a donné à chacun le libre arbitre qui est ancré au plus profond de l'âme, chacun de nous est responsable de sa propre vie, jour après jour, c'est-à-dire de ce qu'il fait, ou ne fait pas. Afin de nous libérer de notre dépendance, Dieu a donné aux hommes, à travers Moïse, les 10 commandements qui sont des extraits de la loi du royaume de Dieu. Et Jésus a apporté les enseignements célestes du sermon sur la montagne. Ensemble, ils sont le chemin qui mène à une vie supérieure. Il n'y en a pas d'autre.
Les églises institutionnelles ont leurs dogmes, leurs rites, leurs traditions et leurs lois ecclésiastiques qui valent pour ceux qui croient en elles et qui prient leur Dieu. Dieu, l'Éternel, est la liberté, l'amour éternel qui englobe tout et l'amour du prochain. Son esprit n'œuvre dans aucune tradition, aucun rituel, aucun précepte énoncé par les églises, aucun dogme. Dieu est la liberté et l'esprit libre agit dans l'infini tout entier ainsi qu'au plus profond de l'âme de chaque être humain. Chaque jour, l'homme détermine lui-même sa vie terrestre et le cheminement de son âme. Faites-en vous-même l'essai. Vous êtes libre de votre foi.
Chers amis, quelle que soit la foi en question, et chaque religion extérieure à la sienne, il n'y a qu'un Dieu. Quelle que soit la religion qui veut vous apporter la foi, si elle déclare que la foi seule suffit, sans les actes, elle est et reste un mirage. Personne ne peut vous prouver que Dieu, l'Esprit Tout-Puissant, habite en vous et que vous pouvez faire l'expérience de Dieu au plus profond de votre âme, c'est-à-dire en vous-même. Une personne ancrée dans l'esprit de la vérité devrait rendre sa foi active en faisant pas à pas ce que Dieu l'Éternel lui a appris à travers Moïse ainsi que Jésus, le Christ, dans son sermon sur la montagne. Si, progressivement, nous faisons l'expérience que Dieu est en nous, qu'il habite en chaque être humain, nous avons d'une part une perspective et d'autre part un but pour notre vie, la foi active.
À chacun de nous de décider s'il aspire à faire l'expérience de Dieu en lui ou bien s'il veut laisser les autres décider à sa place, comme par exemple les hommes d'Église qui prêchent une foi passive. Un exemple simple de la vie quotidienne. Vous recevez un paquet et vous dites « Oui, je crois qu'il contient ce que j'ai commandé. » Si vous n'ouvrez pas le paquet, vous en restez à la foi qu'il contient ce que vous avez commandé. Si vous considérez que le contenu du colis que vous avez commandé est de valeur, l'ouvrirez-vous vous-même ou bien le laisserez-vous ouvrir par quelqu'un d'autre qui n'a pas connaissance de ce que vous avez commandé et qui est si précieux? Chers amis, il en va de même avec la foi. Si nous nous contentons de croire que Dieu habite en nous et ne sommes pas prêts à nous ouvrir à lui, Dieu, ce qui est précieux en nous, nous pouvons nous comparer à ce paquet fermé. Nous devrions nous ouvrir en accomplissant, pas à pas, ce que Dieu nous a enseigné à travers Moïse, les 10 commandements, et ce que Jésus nous a enseigné dans son sermon sur la montagne. Chacun de nous devra un jour ou l'autre retrouver le précieux contenu qui est vivant en lui, qui est la vie en chacun de nous. C'est Dieu, la lumière du Père céleste. Personne d'autre ne peut déterrer ce trésor pour nous. C'est à chacun de nous de le faire. Chacun de nous sait que le temps passe vite et que les heures s'envolent. Aujourd'hui et maintenant, nous pouvons commencer à nous ouvrir, à ouvrir le paquet et à nous rapprocher de son contenu précieux, Dieu, en nous.
Gott in uns näher zu kommen.
Liebe Mitmenschen, chers amis, en conclusion, Gabriel vous adresse à chacun de nous les paroles suivantes. Puis-je me permettre de vous inviter à mettre à profit chaque journée qui est précieuse dans la conscience que Dieu est en vous, en nous? Celui qui s'efforce chaque jour de se rapprocher du précieux trésor qui est en lui-même connaît progressivement une transformation positive. Avec le temps, il se sent plus heureux, plus libre et ressent un sentiment de bien-être et de sécurité qui vient de l'intérieur. Cela pourrait être une réponse venant de Dieu, notre Père céleste. Chacun est appelé à rendre active sa foi passive en la transformant en certitude, la certitude que Dieu est en nous, en chaque être humain, en chaque animal, dans la nature, dans tout l'infini. Avec le temps, vous observerez un changement positif en vous. Vos sentiments s'affineront, vos pensées deviendront plus lumineuses et vous constaterez que Dieu est amour.
Chers téléspectateurs, chers amis, c'est sur ces mots, sur cette perspective, accompagnée d'une chaleureuse salutation, que Gabriel conclut ses explications sur le thème « La parole des astres adressée à l'homme, le microcosme, et à son âme ». Vous pouvez retrouver le contenu de cette émission dans la brochure portant le même titre. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous souhaitons à tous une vie toujours plus consciente de l'amour de Dieu en nous. Nous prenons congé de vous pour aujourd'hui. Une chaleureuse salutation en Dieu. Au revoir et à bientôt.